Et je me souviens que vous aviez...
Malvinet a travaillé surtout sur Cézanne et autres peintres, la peinture chinoise, et également sur des poètes comme René Char. Mais ce qu'il a dit sur le rythme, il n'a pas proposé de définition du rythme. Il est comme le mailleux, il ne sait pas ce que c'est. Sa façon de... Malvinet part d'un terme grec qui est apeiron, qui est la turbulence que, de mon côté, moi, je crois que ça correspond à moi ce que j'appelais le magma, ou le chaos, si on veut, le chaos à l'origine de la théogonie d'Hésiode, c'est-à-dire ce qui est encore informe. Moi, je me suis servi de cette notion du magma ou de l'informe depuis toujours pour essayer de dire par quoi je commence. Quand je commence une pièce, je commence par ça, c'est-à-dire par l'indifférencié, le magma, l'indistinct. Et Malvinet m'a appris que les Grecs, eux, ils appelaient ça apeiron, la turbulence. Alors, le rythme, c'est ce qui vient, c'est à partir d'une opération qu'on ne peut pas décrire, qui vient faire en sorte que ce n'est plus la turbulence, mais c'est autre chose qui n'est pas non plus la cadence, qui n'est pas non plus quelque chose de régulier, mais le rythme est ce qui vient. Je crois que ce qui me revient un petit peu, c'est qu'il vient comme une sorte de traversée de ce qui est indifférencié et il vient l'organiser, mais pas l'organiser d'une façon régulière. Voilà tout ce que je peux dire là-dessus.
Et c'est vrai que, enfin, à mon sens, ça correspond exactement à ce qu'est le comique dans vos pièces. C'est-à-dire que ça traverse les pièces, mais c'est quelque chose qui ne s'installe jamais et qui ne transforme jamais la pièce donc, en une véritable comédie. On peut peut-être les appeler comédies pour dire qu'il y a du comique dedans. De l'ironie, alors cette ironie qui n'est peut-être pas l'humour noir de Swift,
l'ironie de Swift correspondrait à la première.
Voilà, qui n'est donc pas non plus l'humour noir de Swift, mais qui est une ironie des choses, d'une certaine façon, une ironie dans les choses qui donc est mise en évidence par ces collisions dont vous parliez. Et qui est de toute façon extrêmement fragile toujours dans la pièce parce que ça se fait à des niveaux, vous dites mini, micro, des niveaux de infinitésimaux, si l'on peut dire, et puis qui se relaye aussi toujours, qui n'empêche pas le grave, au contraire, et qui justement est indifférencié parfois, c'est-à-dire le grave, le rire ou le pleur, justement, sont indifférenciés. C'est Adorno qui disait que de toute façon, le problème de la gaieté de l'art ne se posait plus aujourd'hui et que justement, ce qui se posait, c'était ce mélange de la gaieté et de la gravité. Et je crois que là, on a vraiment ça.
Sauf pour Aristophane.
Oui, aujourd'hui. Mais Aristophane est une de vos références, Michel. C'est vrai.
Bah oui, justement, je parle de ça. Je renvoie Aristophane. Et en particulier, les nuées. C'est dans les nuées, c'est la question du grave et du léger. Je n'en dis pas plus. Alors sur le comique, puisque j'ai pris mes... Non, seulement une petite boîte sur Vinaver. Est-ce bien comique cela? Donc Monsieur Vinaver a essayé de dire, alors j'ai la référence exacte, c'est en 1981, Michel Vinaver, Théâtre public numéro 39, mai-juin 1981, page 23. Comique, point de moquerie. La satire, c'est la vision qui surplombe. Et le théâtre que je cherche à faire est à l'opposé du satirique. À l'égard des personnages, ne s'exerce aucune ironie. Pourtant, l'ironie est constitutive de ce théâtre, comme le sang l'est du corps. Enlevez l'ironie, il n'y a plus rien. Alors, où est-elle? C'est la question exacte. Dans la succession ininterrompue d'accidents infimes qui constituent le texte. Que sont ces accidents? Les trous, les pannes dans le dialogue, les courts-circuits, les surgissements incongrus de rythme et de rime, les sautes de niveau, de signification, d'une réplique à une autre, les dérapages et les syncopes pour aller d'une situation à une autre, les catastrophes à peine perceptible dans les relations entre personnages, les enchaînements manqués, les tamponnements de phrases qui ratent leur rencontre, tout le tissu des décalages entre ce qu'on attend et ce qui se produit. Autant de décharges qui provoquent l'effet comique. Celui-ci est essentiel. Sans doute déclenche-t-il rarement l'éclat de rire, mais plutôt il déstabilise la banalité et place le spectateur en permanence dans une zone au bord du rire, la zone du va-et-vient privilégié entre le drôle et le grave, pour léger. Là où, entre ces deux pôles, des mouvements de sang se produisent. La fabrication de l'effet comique n'est pas délibérée, elle est consubstantielle à l'écriture. L'effet comique est ce qui fait prendre la patte, c'est la vibration qui donne consistance à la matière même de la conversation de tous les jours. Sur quoi on pourrait renvoyer cette idée de comique au travail qu'a pu faire à un moment donné Tchekhov, même si rarement l'inverse s'en revendique en tant que tel. Mais c'est l'idée que Tchekhov a fait des comédies, et quelquefois, mais pas tous ses textes, les textes de Wiener, mais certains sont vraiment indiqués, sous-titrés comédies. Sauf que on ne rit jamais, et malheureusement, comme c'est en général Tchekhov mal traduit du russe, on met « il pleure » ou « elle pleure », alors qu'il faudrait dire « il pleure à travers les larmes » ou « il rit à travers les larmes », c'est toujours cette espèce d'entre-deux. Ça me permet alors, et après je m'arrêterai, de lire ce texte générique qui m'a beaucoup fait rêver, que Wiener cite sans cesse, qui est sur l'entre-deux. C'est-à-dire, on est dans l'ironie, justement, cet entre-deux-là, et donc pas l'affichage en tant que tel de l'ironie, qui serait justement, avec Botul, bon, un exemple, Wiener en a donné, c'est vraiment ce petit texte de Braque, Georges Braque, entretien avec Georges Charbonnier, l'Express, de juillet 1959. Il y a des gens qui disent, que représente votre tableau? Quoi? Il y a une pomme, c'est entendu. Il y a, je ne sais pas, une assiette à côté. Ces gens-là ont l'air d'ignorer totalement que ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. Et ma foi, il me paraît tout aussi difficile de peindre l'entre-deux que les choses. Cet entre-deux me paraît un élément aussi capital que ce qu'ils appellent l'objet. C'est justement le rapport de ces objets entre eux et de l'objet avec l'entre-deux qui constitue le sujet. Et finalement, l'écriture telle que Wiener la pratique ou l'invente, enfin, au fur et à mesure, est fondée d'une certaine manière sur ça. Avec une part, me semble-t-il, de hasard, d'aléatoire, bon, sur lequel vous pourrez gloser, comme on dit, mais je vais m'arrêter, j'en ai déjà assez.
C'est par rapport à la mise en scène, justement, Marie Lazarini, parce que donc, la question de rythme, elle est dans le mouvement du texte. Elle est dans les accidents du texte, mais elle doit être dans la mise en scène.
Donc, si la mise en scène suit en effet les mouvements du texte, le rythme du texte, elle ne peut qu'entrer dans cette voie. Moi, je trouvais très drôle les travaux des gens. Et je pense que les spectateurs, enfin, bien sûr, c'est pas hilarant, mais riaient beaucoup. Ça se percevait de façon très forte, comment dire, de façon évidente, parce que c'était dans le contenu du texte, et que si on respecte ce rythme, et si on essaie d'entrer dans le rythme de l'écriture, eh bien ça apparaît tout naturellement, je dirais. Voilà. Si Michel écrit comédie, je trouve que c'est juste, parce que oui, j'ai toujours trouvé assez drôle. Mais pas que les travaux, les voisins, enfin. Moi, les quatre pièces que je viens de mettre en lecture, de moins dissident, encore que, il y a aussi, par dissident, des choses qui apparaissent, c'est extraordinaire. Et je viens d'avoir juste un de mes acteurs, il m'appelle régulièrement, puisqu'ils font ses lectures actuellement dans le Gard et le Vaucluse. Et donc, chaque fois qu'ils ont fait une lecture, ils m'appellent pour me dire comment ça s'est passé. Et ils me parlent tous de ça. La réaction des spectateurs, Nina, etc., qui trouvent ça drôle, qui sont... Et donc, ce qui rend aussi proche de ces êtres humains, je crois qu'il y a une proximité qui s'introduit par le biais du rire et de ces décalages, c'est entre le spectateur et les personnages sur le plateau, et qui font que ça rend compte de cette humanité dont je parlais tout à l'heure. Je ne sais pas, parce que moi, juste, j'avais rien à emporter. Je n'ai pas mes dossiers, j'ai rien. Et ça fait rien. Je vais quand même juste vous lire ce petit, très très court extrait d'un texte de Philippe Mignana, qu'il a écrit sur l'œuvre de Michel Vinavert. Et je trouve que c'est assez beau ce qu'il dit sur ce que Vinavert a apporté à son métier d'auteur. C'est ce génie-là de Vinavert qui m'a appris mon métier, écrivain de théâtre. Restituer le bruit du monde, la parole des gens, dans son juste volume, dans sa tonalité, faire entendre la vie, comme un témoin qui a de l'oreille, ou comme un étranger amusé, qui découvrant et reconstituant une langue nouvelle, encore inconnue de lui, du coup, restitue au plus près sa particularité, son exotisme. La grande leçon de Vinavert, c'est de nous montrer que ce qui est visible, donc de cadrer au mieux, dépouiller l'appareil théâtral de ses actes, scènes, noires et autres indications, pour dresser une comédie humaine évidente et cependant, à cause d'une telle évidence, troublante et infinie. Voilà, moi je ressens très fortement ce texte comme étant juste.
Il y a une chose qui me vient à l'esprit.